Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cinéma. Ça tourne aujourd'hui avec le réalisateur Christophe Baratier, que vous connaissez forcément pour le succès des films Les Choristes ou encore Faubourg 36. Eh bien, il revient la semaine prochaine au cinéma, de nouveau au début du XXe siècle, sous la période de l'occupation avec Les Enfants de la Résistance. Titre de ce film dont l'histoire est celle de trois enfants dans un petit village français qui lance une opération clandestine pour déstabiliser l'occupant nazi en dupant tous les adultes du village.
Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls.
Gestapo, faites sortir vos élèves.
Et vous, vous dites rien ?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?
Vous êtes rien que des lâches, c'est tout.
On peut pas rester comme eux, là, sans réagir.
On enverra des messages aux gens.
L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé, Lynx.
Ah mais moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pour la collaboration et le maréchal.
Heil Hitler.
Extrait du film Les Enfants de la Résistance, adaptation de la bande dessinée du même nom, et c'est au cinéma mercredi prochain. Et pour nous en révéler les secrets de tournage, deux invités aujourd'hui, dont le réalisateur Christophe Baratier. Bonjour Christophe.
Bonjour.
En vous replongeant plus d'un an en arrière, lorsque vous avez tourné le film en octobre 2024, quelle est la première image de décor, de paysage qui vous revient en tête ?
La ferme qui est le domicile, enfin le lieu principal de vie des enfants et des parents, du père joué par Artus, de la mère jouée par Leslie Medina,
oui.
Et de ces trois enfants que j'ai castés, avec lesquels on a passé au moins trois semaines dans un décor autour d'animaux, vraiment dans une ferme très rurale, et on se croyait vraiment à l'époque et pas beaucoup d'efforts à faire.
C'est agréable de tourner dans une ferme.
Très. En plus c'est une ferme, faut le dire quand même, avec des animaux qui sont, en fait c'était une ferme, je crois une ferme école plus ou moins.
Ferme pédagogique
avec donc des chèvres et des animaux qui qui vont nous brouter toute la journée, qui n'ont aucune peur, des cochons qui nous suivent à la trace. Donc c'est très marrant. Et puis, ils mangent tout. Donc ils sont très bien avec eux. C'est comme un zoo, mais dans lequel tous seraient nos amis.
Alors à vos côtés, Christophe Baratier, notre métier de l'ombre du jour, celui d'ensemblière. Je suis très heureuse puisque c'est la première fois qu'on présente ce métier de cinéma. Bonjour Nathalie Deschamps.
Bonjour.
Votre rôle est déterminant, encore plus peut-être sur les films d'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est une ou un ensemblier pour le cinéma?
Alors, l'ensemblier ou l'ensemblière est la personne qui va chercher le mobilier, les textiles, rideaux, coussins, tapis et les luminaires. Elle est accompagnée d'un régisseur d'extérieur et qui va lui chercher tout ce qu'on appelle le meublant, les accessoires meublants. Ça peut être la vaisselle et on a des rippers avec nous.
Rippers, c'est quoi ? Oui.
Les rippers sont les personnes qui conduisent les camions et qui nous aident à installer les décors.
Et qui transportent donc tout ce matériel. Donc vous êtes en charge de la décoration finalement ?
Tout à fait. Avec le chef décorateur nous donne des indications de couleurs, de volume et nous meublons suite au repérage en adéquation avec les scènes qui doivent se dérouler dans les décors.
Alors la particularité de ce film, c'est que vous avez créé un village imaginaire, si je peux dire, Pontin-l'Écluse, qui n'existe pas, et que vous avez créé dans l'Yonne, à Mailly-le-Château, qui est donc un petit village de 500 habitants. Déjà, pourquoi ce village-là en particulier, Christophe
Baratier ? Il fallait, comme dans la bande dessinée, trouver un village d'invention qui s'appelle Pontin-l'Écluse, mais qui avait en au moins des caractéristiques. Une caractéristique déjà géographique, puisque il se situe, le film commence à la déclaration de guerre, ensuite on a les Allemands qui envahissent la France, et comme on le sait, la France a été coupée en deux, le long d'une ligne de démarcation, et le village, on le comprend, est non loin de la ligne de démarcation, puisque on parle à un moment d'exfiltrer des évadés, donc on suppose que c'est quelques heures à pied pour la traverser. Ça, c'était important. L'autre chose, c'est que c'est un village qui soit pas trop marqué donc du nord ni du sud, parce que ça se voit dans l'architecture, et en même temps un village qui soit quand même rural, perché avec un ce qu'on appelle un look, j'allais dire plutôt du cachet, un peu dans son jus.
Ouais, c'est ça, authentique, qui peut être transformable et ouais, où on peut faire des reconstitutions.
Dans lequel on peut faire des interventions. Si on a tourné principalement sur une place de village. Fallait construire une fontaine, fallait construire un monument aux morts. Il fallait aussi que on ait quand même des commerces qui soient dans la patte de l'époque, c'est-à-dire il faut des peintres en lettres, il faut des devantures, il faut des intérieurs, et puis aussi évidemment contrôler un peu les signalisations au sol, tout ça. C'est après en effet spécial, avec des effets spéciaux que nous effaçons, les paraboles, les pylônes électriques.
Ah oui, parce que ça vous pouvez pas, enfin tout ce qui est paraboles, vous ne les enlevez pas pendant le tournage, c'est trop compliqué.
Ça,
Nathalie Deschamps, en tant qu'ensemblière, très concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez fait installer à Mailly-le-Château.
À Mailly-le-Château, on a recréé une épicerie Donc c'était assez amusant à faire parce qu'on a créé une boîte dans une boîte, c'est-à-dire on a fait cette épicerie dans un garage, en fait, un garage où on garait des voitures.
D'accord.
On a fait une fausse façade et on a complètement meublé l'épicerie. Ça, c'est sur la place du château. On a créé l'école aussi, la salle d'école. Au départ, d'extérieur, la salle de classe, c'est très joli, c'est un très joli bâtiment ancien, mais à l'intérieur, c'est une sorte de salle de MJC ou de réunion, donc avec des murs, des huisseries, fenêtres, ouais, des portes très modernes. Et on a tout, on est parti d'un endroit extrêmement contemporain et on a tout retapissé, les murs, ramené de la matière, changé les fenêtres.
Où est-ce que vous trouvez le matériel d'époque?
Alors, ça, ce sont, alors, la plus grande partie de notre travail, c'est de chiner, ouais, de chercher sur les sites, d'aller aux puces. Je passe mon temps dans les vide-greniers, plus dans les ressourceries chez Emmaüs, et voilà.
Et alors, évidemment, reconstituer un village des années 40 au cœur d'un vrai village moderne, ça provoque quelques réactions auprès des habitants, écoutez.
De voir le drapeau nazi sur une mairie comme la mairie de Mailly, qui est une petite mairie d'un petit village français, il y a 10 secondes où le cerveau se met en mode what ?
Voilà, témoignage recueilli par nos confrères d'ici Auxerre auprès d'une habitante de Mailly, ouais, le château. Donc oui, on est vraiment dans une reconstitution de l'occupation. Quel est le décor que vous avez reconstitué qui vous a le plus marqué, Christophe Baratier ?
Déjà, je pense à ça parce que la première chose qu'on voit quand on choisit un village, c'est d'aller voir le maire et lui parler. Alors,
au début, comment ça s'est passé ?
Non, ça se passe bien très rapidement. Bon, en 10 minutes, on montre le sérieux ou non. Et puis, au tout début, je ne peux pas dire qu'il y a une certaine méfiance. Forcément, il y en a une, mais combien de temps ? Vous allez faire quoi ? Comme on dit, le drapeau nazi est la part du drapeau français. Va faire ceci. On y va pas à pas quand même. On ne dit pas tout d'un coup, on va vous occuper parce que c'était comme l'occupation. Pour eux. Mais en revanche, après, ce qui se passe, c'est que nous avons, enfin, je pense que Nathalie l'a vu, dans le village, je crois que la moitié du village est figurant dans l'église, dans la salle de classe, c'est tous les enfants du village qui sont
là. Ah,
et Jean-Michel Godefroy, le maire du village, est lui-même figurant dans le film. Ouais. D'ailleurs, il se fait même brutaliser par la Wehrmacht à la grande joie de ses administrés. Et on a eu notamment pour la scène où à un moment une colline s'affaisse et cette colline forme une espèce d'immense tas de boue sur le canal et tous les habitants du village sont réquisitionnés. Donc la colline s'affaisse. Bon, c'est un effet spécial. En revanche, le tas de boue est vrai. Ce sont des centaines de mètres cubes de terre qui ont été apportés par les agriculteurs eux-mêmes.
Voilà. D'accord. Ah oui, vous avez vraiment mis à contribution tout le village.
Maintenant, d'ailleurs, il y a eu un deuxième tournage, je ne sais pas si sais.
Oui. À Mailly le Château.
Oui, d'Éric Barbier. Alors maintenant, je pense que le maire va nommer Mailly le Château, cité du cinéma,
tout à fait.
Hollywood sur Yonne.
Mais ça se passe comment ? Parce que j'imagine que toute l'équipe doit séjourner sur place pendant toutes ces semaines.
Oui,
vous avez habité Mailly le Château.
Oui, je crois qu'il y avait. Toutes les loges ont été faites dans un ancien hôtel-restaurant.
Oui, l'ancien hôtel.
Toutes les loges étaient là. Les bureaux de production étaient dans le château de Mailly le Château. Et en revanche, je sais que le maire, Jean-Michel Godefroy, a gardé la décoration qu'on a faite.
Oui.
Il l'a trouvée beaucoup plus belle que celle d'avant.
Oui, il a gardé la couleur des murs, les rideaux, on lui a laissé tout.
Ah, c'est rigolo, ouais, ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on devient ensemblière pour le cinéma ? Est-ce qu'il y a une formation ?
Non.
Comment on fait, alors ? Si quelqu'un nous écoute et se dit « Ah, j'aimerais bien... »
On est formé par des gens dont je peux former des gens, voilà. On les prend. Moi, j'ai commencé comme troisième assistant.
Déco ?
Oui.
On commence par la déco quand même.
Par la déco. Ah oui, on rentre dans le métier de déco comme troisième assistant et certains se découvrent un goût pour... C'est particulier quand même, le meuble, aller traîner ses guêtres tous les week-ends dans les villes. Enfin, il faut aimer, moi c'est une passion.
Il faut aimer chiner.
Il faut aimer chiner, il faut aimer parfois aller dans des endroits improbables, rencontrer des gens, négocier des prix. Pour le film, on est allé dans le stock d'un brocanteur. C'était hyper dangereux en fait. Il fallait qu'on enjambe des choses. C'était un amas de bazar, mais c'était super. Il y avait tout. Il était en train de ranger son stock. Il y en avait de partout.
Dans le salon de la ferme où habite Don Cartus, on a une pendule à balancier où il y a marqué Auxerre dessus dans la fabrication. Ça, c'est vous qui l'avez trouvé ?
Oui, on l'a trouvée.
On l'a trouvée. Elle marchait en plus.
Oui, parce qu'on l'a réparée.
Elle marchait. Et la péniche, parce qu'il y a un moment, les enfants surprennent une péniche en train sur un canal qui va vers l'Allemagne. Ils demandent ce qu'il y a dedans. Et en fait, ils s'aperçoivent que les Allemands pillent toutes les récoltes françaises et les vins, ça, pour les envoyer en Allemagne. Ça, c'est vous qui avez aménagé toutes les victuailles et tout ça qu'on trouve. D'accord.
Oui. Ici, avec Ségolène Aluni, ça tourne.
Christophe Baratier et l'ensemblière du film Les Enfants de la Résistance sont nos invités ce dimanche. Christophe, Nathalie Deschamps, c'est l'heure de récolter vos souvenirs sensoriels de tournage. Christophe Baratier, quel son retenez-vous de ce tournage dans le village de Mailly-le-Château ?
Le son des oies de la ferme de Saint-Fargeau.
Ah, hein, on y revient aux animaux.
C'est vrai, parce que là, ça, ouais, 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 d'un coup, quand ça, n'importe quelle occasion, les oies, c'est terrible. Ça fait un bruit, on peut rien faire quand des oies.
Bah oui, c'est compliqué pour tourner.
Comment elle fait? Elle cancane, non?
Je sais pas, je crois.
C'est moins une difficulté que les cigales que j'ai eues sur le stand des secrets.
Ah oui.
Où j'ai appris d'ailleurs que c'est à partir de 24 degrés pile que ça commence.
Ah oui. Ouais.
Et donc, quand ça commence en plein été sous un arbre, bon, c'est infaisable.
C'est infaisable, intournable. Ouais. Nathalie Deschamps, quelle odeur retenez-vous de ce plateau de tournage?
Alors, moi, c'est l'odeur de l'encaustique. L'encaustique, c'est la cire pour les meubles. Comme on a utilisé beaucoup de meubles en bois anciens, enfin, d'époque, pour qu'ils soient beaux, on les cirait et j'aime beaucoup cette odeur.
Ce serait quoi pour vous, Christophe Baratier, si vous deviez retenir une odeur?
Moi, c'est l'odeur particulière de la coiffure le matin.
Ah.
C'est-à-dire que quand on arrive, on sent beaucoup
la laque.
La laque, elle nette. Si on ne va pas citer de nom, enfin, c'est de même. Oui, c'est vraiment toujours la même. Et j'avoue que cette odeur-là me fait penser que les acteurs sont là. Et la pire des choses quand on arrive sur un tournage, c'est qu'on se dit, il y a un comédien qui veut te voir. Qu'est-ce qu'il veut encore?
C'est-à-dire, comment ça?
C'est-à-dire que quand on arrive comme ça, il y a un comédien qui veut te voir, sous-entendu, il a quelque chose à discuter sur la scène, il a le dialogue, il a des changements à te demander. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ça tombe assez mal parce que c'est justement là où moi-même, où je sais qu'il y a un problème, un tout petit peu. Et c'est que j'ai dit, mais pourquoi tu veux me voir? Quel est le problème? Alors que je sais qu'il y en a un. Voilà, donc un peu de mauvaise foi.
Mais vous n'aimez pas quand les acteurs viennent vous poser des questions sur
pas
le tournage?
Pas le matin à 7h.
Pas le matin à 7h. Très bien. Ben voilà. Pour les acteurs qui nous écoutent, sachez-le, Christophe Baratier ne veut pas vous entendre à 7h du matin.
Mais j'y vais quand même.
Nathalie Deschamps, quel accessoire vous a particulièrement marqué sur ce tournage?
Alors, j'ai réfléchi, et ça, c'est pas un accessoire, c'est un élément de décor. Mmh. C'était notre monument aux morts que nous avions surnommé Kevin.
Ah oui, monument aux morts malmené.
Malmené et qui était, qu'on a quand même déplacé régulièrement en fonction des séquences. Il était parfois en étape 1, c'est-à-dire complet, et parfois en étape 2, un peu cassé. Et donc voilà, c'était l'ordre du jour. Souvent, c'était on remet Kevin en étape 1 sur la place et on a beaucoup d'affection pour ce monument aux
morts. Et surtout, il fallait qu'on le cache une ou deux fois maximum, non?
Oui, c'est ça.
Pourquoi?
Parce qu'après, ils n'étaient pas ressoudables.
Voilà, c'est ça.
Vous, Christophe Baratier, ce sont les cartes pédagogiques dans les salles de classe qui vous ont marqué?
Ouais, j'aime beaucoup ça, oui. Les cartes pédagogiques, que ce soit les endroits, les fleuves de France, les départements.
Mais c'est des cartes d'époque.
Ah, c'est des cartes d'époque.
Des vraies cartes que vous avez récupérées.
On en avait trouvé un peu chez les loueurs et on en a chiné.
Christophe Baratier, avec quoi avez-vous envie que les spectateurs repartent après avoir vu votre film?
Surtout le fait d'avoir vécu un moment. C'est-à-dire que bon, c'est un film, là on a parlé surtout de la forme et dans le contenu, on le sait, c'est un film qui va parler de l'occupation, donc d'un moment particulier, parce que c'est pas seulement le conflit guerrier, l'occupation, on le sait maintenant, a révélé, il y avait certes, ce qu'on me disait, les méchants allemands, les gentils français, mais attention, au milieu, l'occupation a révélé, oui, mais le pire est le meilleur de nous-mêmes.
Oui,
c'est-à-dire les collabos les plus infâmes, des collabos, disons, parfois pour se démerder, parce qu'il fallait bien faire avec. Et de l'autre côté, on avait des super-héros, c'est-à-dire des gens qui ont parfois caché une famille, qui ont caché une personne, et à qui ça a coûté au moins la vie ou la déportation. Et moi, c'est le fait d'avoir vécu un moment, au-delà de voir un bon film, et d'avoir vécu un moment qui réunit la famille et qui forge un peu les consciences.
Mmh. Mais on sent que vous avez une affection particulière pour cette période de l'histoire.
C'est pas une affection, c'est une obsession.
Oui, ben voilà, j'ai pas osé le mot, mais c'est vrai qu'on peut assimiler ça à votre filmographie. C'est un devoir de mémoire aussi, selon vous, de rappeler par la fiction ces périodes sombres de notre histoire qui peuvent nous rattraper. On voit aujourd'hui que la conjoncture est quand même compliquée.
Quand je dis devoir de mémoire, c'est pas moi de donner des devoirs. Moi, je suis là pour donner à réfléchir, éventuellement donner à réagir. On vit en ce moment un monde assez instable, peut-être le plus instable depuis la guerre froide, j'ai l'impression, et qu'on ne sait jamais, sans doute pas en France, mais on n'est pas loin de l'Ukraine et tout, et se pose toujours la question de l'occupation, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? J'ose espérer que je n'aurais pas dénoncé mes voisins juifs pour piquer leur appartement, mais est-ce que j'aurais vendu du lapin aux Allemands? Est-ce que j'aurais fait un film? On n'en sait rien. Et donc, moi, pour ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui ont caché une famille juive, quand même, au péril de leur vie, là, je tire un chapeau et on leur doit une admiration sans faille.
Vous tirez un chapeau et vous réalisez un film en partie sur ce sujet, Les Enfants de la Résistance. C'est au cinéma mercredi prochain, avec Gérard Jugnot, Artus, Pierre Deladonchamp, Vanessa Guide, Julien Arruti, Julien Pestel et Lucas Hector dans le rôle principal. Merci beaucoup Christophe Baratier d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et merci Nathalie Deschamps de nous avoir présenté votre métier d'ensemblière pour le cinéma, absolument passionnant.